Le journal de Léandre Béret.
Bonjour, la pilule du lendemain sera gratuite en France l'année prochaine pour toutes les femmes et son accès est facilité en pharmacie. En Suisse, c'est plus compliqué. Ce moyen de contraception d'urgence est payant alors qu'un entretien est demandé aux femmes qui veulent en bénéficier. Le salon des sous-traitants horlogers cartonne à la Chaux-de-Fonds. 64 exposants participent cette semaine au Technical Watchmaker Show du jamais vu. La dernière sonne pour Roger Federer, le champion balois va participer à son dernier tournoi professionnel vendredi à Londres. Il s'est exprimé à cette occasion pour la première fois depuis l'annonce de sa retraite. Et la journée va se poursuivre avec le soleil, quelques cumulus vont se développer mais ils seront bien inoffensifs. La bise va souffler pour maintenir les températures à 17 degrés au maximum. La contraception d'urgence va devenir gratuite en France l'année prochaine. Le ministre français de la Santé l'a annoncé hier. L'accès à la pilule du lendemain est facilité dans les pharmacies, sans ordonnance, et ce pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. En Suisse, ce type de contraception est payant. Et autre particularité, les femmes qui veulent en bénéficier doivent passer un entretien privé avec un professionnel de la santé. Un parcours parfois jugé compliqué pour certaines femmes. Mais selon la sexologue et conseillère au Centre de santé sexuelle de Delémont, Catherine Charmiot, le dialogue est important.
C'est clair que c'est pas non plus comme aller acheter une barre de céréales. On doit, en tant que professionnel, évaluer le besoin de cette contraception d'urgence envers la femme qui vient la chercher. C'est pas parce que c'est mauvais pour la santé, je le précise, parce que là aussi, il y a encore des choses qui circulent dans la société. C'est pour être sûr que cette personne en a besoin. Et au centre de santé sexuelle ou dans les pharmacies ou à l'hôpital, les lieux où on peut aller l'acheter, on va demander à la personne de la prendre sur place. Ça, c'est aussi important de dire, on ne peut pas aller en acheter pour quelqu'un parce qu'on a besoin de vérifier qu'elle en a besoin, cette personne, qu'il y a une prise de risque. Et des fois, il n'y en a pas besoin parce que peut-être cette personne est déjà sous contraception standard.
Est-ce qu'un professionnel peut refuser de la donner pour des raisons X ou Y?
Selon la loi, si la fille en a besoin parce qu'il y a eu une prise de risque, non, on ne peut pas refuser une contraception d'urgence, y compris si la fille est mineure sexuellement.
Un sujet de Caroline Toussaint. Dans les centres de santé sexuelle, la pilule du lendemain est moins chère, entre 15 et 20 francs. Ces espaces sont ouverts à toutes et à tous pour toute question d'ordre sexuel et affectif. Dans le Jura, ils sont situés à Delémont, Port-en-Truy et aux Franches-Montagnes sur rendez-vous. L'obésité sera discutée ce soir à 18h lors d'une conférence publique en ligne de l'hôpital du Jura. Des spécialistes expliqueront notamment les solutions de prise en charge de ce thème important de santé publique. Un patient livrera aussi son témoignage. Les informations et l'accès à cette conférence sont à trouver sur www.h-ju.ch/conf-obésité. Laurent Monnerat rejoint le service de la consommation et des affaires vétérinaires. Ce jurassien de 51 ans a été désigné par le gouvernement au poste de vétérinaire officiel au sein du SCAV, selon une communication faite ce matin par l'État. Il est entré en fonction à 90% le 1er août dernier. Laurent Monnerat est titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire. Le Technical Watchmaker Show est de retour après 2 ans d'absence. Le salon des sous-traitants horlogers accueille le public aux anciens abattoirs de la Chaux-de-Fonds jusqu'à vendredi. Les 2 dernières éditions du TWS avaient dû être annulées, notamment en raison du Covid. Les organisateurs ont lancé une opération séduction pour faire revenir les exposants dans les montagnes neuchâteloises. Ils sont 64 à avoir répondu à l'appel. Julien Dubois et Johnny Veillard, co-organisateurs du salon.
C'est tout un travail de pouvoir les recharmer à nouveau. Mais c'est vrai que les exposants qui avaient connu 2019, qui avaient été une bonne édition, étaient contents de revenir. Et puis ce qu'il y a à voir aussi, c'est qu'on est des métiers dans la sous-traitance horlogère et on a besoin de se montrer toujours.
Est-ce qu'il y a des nouveaux exposants qui sont venus? Est-ce que d'anciens sont partis? Ou est-ce que vous avez une clientèle qui est extrêmement fidèle et qui attendait cette date de septembre 2022 pour revenir?
Il y a une bonne partie d'exposants qui étaient présents en 2019, mais évidemment on a la chance d'accueillir des nouveaux exposants vu qu'on est passé de 50 exposants en 2019 à 64 pour cette édition. Donc c'est une jolie progression et puis comme ça on voit des nouveaux exposants et des nouvelles propositions à ce niveau-là, au niveau du métier.
Mais est-ce que ça veut dire que votre bassin, entre guillemets, de recrutement s'élargit davantage depuis 2018 et 2019
hein? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous les sous-traitants qui font partie du sérail horloger. Donc le bassin est assez large quand même.
Du coup, les exposants viennent d'où? Alors on imagine de l'arc jurassien parce que c'est quand même le berceau de l'horlogerie, mais au-delà aussi?
On a aussi quelques exposants étrangers, on en avait aussi en 2019, pays limitrophes essentiellement la France, l'Allemagne.
Des propos recueillis par Claire Vigel, les organisateurs du Technical Watchmaker Show espèrent aussi cette année attirer plus de visiteurs que les 2000 de l'édition 2019. Deux candidats pour un fauteuil à Soyères, Christian Zuber et Nicole Hanser, briguent la mairie du village à l'occasion des élections communales du 23 octobre. Tous deux sont sans étiquette politique. Âgé de 58 ans, Christian Zuber est en place depuis 5 ans. Il vise donc un nouveau mandat à la tête de l'exécutif de Soyères avec un enthousiasme intact.
J'aime mon village, c'est la raison première de la poursuite de mon engagement à la mairie.
Il y a aussi des dossiers qui vous tiennent à cœur. Si vous devez en sortir un à réaliser ces 5 prochaines années, si vous êtes réélu.
Il est clair, les dossiers ne manquent pas. Il y a par exemple le projet des crues du Métambert, un projet sécuritaire. Celui-là, il devra être poursuivi et nous allons l'achever l'année prochaine ou début 2024. C'en est un.
Quelle est votre vision de votre Soyères de demain ?
Le bon sens et la proximité avec les administrés. Dans nos petites communes, il faut être proche des gens, être à l'écoute, respecter leur mode de vie. Et je m'y engage. La charge de maire est intense, un engagement permanent et un vrai combat contre le temps.
Un mot qui est encore passablement tabou dans le Jura, mais qui est quand même d'actualité, c'est celui de fusion. Si on vous dit fusion, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous appréhendez positivement ou négativement ?
Je pense qu'il faut rester ouvert à la fusion. Il faut observer si quelque chose peut aller dans ce sens à l'horizon 2028-2030. Ou peut-être avant, oui, il faut être ouvert et puis communiquer avec nos habitants.
Ouvert avec les communes du Haut-Plateau, vous voyez-vous une fusion à plus large échelle ?
Je pense qu'il faut voir une fusion à plus large échelle, la couronne de Delémont. Pourquoi pas avec le Haut-Plateau, mais je la vois quand même un peu plus grande avec 10-12 communes.
De son côté, Nicole Hanser fait son retour sur la scène politique communale en présentant sa candidature. Âgée de 56 ans, elle avait démissionné du conseil communal en août 2021 après y avoir siégé durant 14 ans. L'ancienne élue indique que sa volonté de briguer la mairie n'était pas préméditée, mais qu'elle est venue avec le temps et l'intention de serrer la vis autour des finances de Soyères. Nicole Hanser.
Le Soyères de demain, il faudrait qu'il soit déjà avec des comptes qui soient bons. Un village où il fait bon vivre, mais c'est déjà le cas. Même les gens de l'extérieur disent que c'est un village agréable. Donc après, il faudra faire aussi pour que les finances le soient aussi, pour que ce village reste quand même attractif vis-à-vis des gens de l'extérieur.
Vous êtes la candidate de la rigueur budgétaire ?
Pas de la rigueur budgétaire, je serai la candidate qui fera tout pour améliorer la situation financière.
S'il y a un gros projet qui vous tient à cœur à mener dans la prochaine législature ? Lequel est-ce ?
Sauvegarder notre station de la Doue pour l'eau. Ça a toujours été mon point fort en tant que conseillère et il le restera en tant que maire si je suis élue, ça c'est clair. Toutes les communes ont besoin d'eau, nous en avons en suffisance. Le problème c'est qu'on n'a pas un assez bon moyen de filtration de l'eau.
Il y a un mot qu'on en parle de plus en plus, c'est celui de la fusion. Quelle est votre position sur un éventuel rapprochement futur avec les communes voisines de Métambert, de Mauvelier, d'Edersvillers ou de Brugnon.
Moi, personnellement, j'aimerais continuer à rester indépendante parce que voilà, mais il faut que la situation le permette, autant financièrement, autant au niveau des gens qui veulent s'involver dans la commune comme conseiller ou comme ça. J'entends si on ne trouvera plus assez de monde et puis si les finances ne suivront plus, malheureusement, ça sera peut-être la solution, c'est de fusionner. Mais moi, je n'y tiens pas.
Un dossier réalisé par Raphaël Chalvera et à retrouver avec des photos sur rfj.ch. Demain, nous prendrons la direction de Soubé où 3 candidats visent la mairie. Les femmes pourraient être obligées de servir en Suisse. Le Conseil des États a tacitement pris acte ce matin d'un rapport gouvernemental en 2 parties visant à éviter des problèmes de sous-effectifs dans l'armée et dans la protection civile. Rendre le service obligatoire pour les Suissesses permettrait de doubler les effectifs. Le Conseil national doit encore se prononcer. Et la consommation de gaz a baissé de 20% au cours des 2 derniers mois en Suisse. C'est ce qu'a déclaré le chef du domaine énergie à l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays dans la Neue Zürcher Zeitung hier. Selon lui, les entreprises ont réagi à la hausse des prix. La Suisse est actuellement en bonne voie, mais l'alerte ne peut pas encore être levée pour l'hiver, a-t-il mis en garde. L'augmentation du coût de la vie devrait être compensée pour les rentiers AVS et AI au 1er janvier. Et la contribution fédérale à la réduction des primes de l'assurance maladie devrait augmenter de 30% en 2023. À de courtes majorités, une alliance de circonstances de la gauche et du centre au Conseil national a voté ces mesures de sauvegarde du pouvoir d'achat. La partie n'est toutefois pas gagnée. Le Conseil des États devra se prononcer lundi soir. Le Parti socialiste a donc obtenu une majorité pour que la Confédération consacre l'année prochaine 1 milliard de francs, en plus des actuels 2,9 milliards, pour soulager les payeurs de primes maladie dans le besoin. Le conseiller national socialiste genevois, Christian Dandres.
Simplement le fait que la Confédération aide la population, aide la classe moyenne et les classes populaires avec des subventions aux primes d'assurance maladie supplémentaires. Les primes d'assurance maladie augmentent, les loyers augmentent, on a aussi une inflation générale et donc il faut aider cette classe moyenne et cette classe populaire qui sans ça vont risquer de tomber dans la précarité.
Le mécanisme prévoit déjà que lorsque les primes augmentent, la contribution de la Confédération à ses rabais sur les primes augmente aussi, il en fallait plus.
Bien sûr, parce que le but, c'était d'avoir plus d'argent pour aussi couvrir d'autres charges incompressibles, comme notamment le loyer ou les prix des carburants.
L'Alliance Gauche-Centre a fait passer une autre mesure, le versement du plein renchérissement aux retraités. Le Conseil fédéral s'y opposait, s'en tenant au mécanisme ordinaire de l'indice mixte, moins généreux. La proposition du parti du Centre a donc passé la rampe. Une bonne nouvelle pour son président, Gerhard Pfister.
C'est la moitié d'une bonne journée. Ça dépend aussi des décisions du Conseil des États. C'est important que le Parlement a donné le signal que nous sommes devant une crise pour la classe moyenne, pour les familles. Et le Conseil fédéral doit agir, doit éviter que le pouvoir d'achat érode avant tout chez la classe moyenne.
Et au final, seules deux des propositions faites ont été adoptées. Celles préconisées par l'UDC ont été nettement rejetées, en particulier l'idée du fribourgeois Pierre-André Page de renoncer à percevoir les taxes sur les carburants qui ne sont pas liées à l'entretien du réseau routier. Cela représente environ 40 centimes.
Je suis déçu parce que je l'avais déposé en mars déjà et je pensais cette fois avoir un soutien parce que c'est vraiment ciblé aux gens qui ont utilisé des véhicules, qui ont besoin de carburant, que ce soit du diesel ou de l'essence. Et puis là, c'était vraiment ciblé à ces personnes, aux régions périphériques et aux PME.
C'est un refus plus à l'UDC qu'à la mesure ?
Je pense que c'est un refus à l'UDC parce que lors du débat urgent précédent, il y avait des gens du centre, du PLR qui partageaient cette idée. Et puis là, finalement, ils sont tous retournés contre nous. L'idéologie politique a travaillé.
Dossier préparé à Berne par Serge Jubin. Pour qu'elles deviennent effectives, les mesures sur l'AVS et les primes maladie doivent être ratifiées aussi par le Conseil des États, auquel cas il faudra adapter en urgence la loi sur l'AVS en décembre. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. 300 000 réservistes pourront être appelés à servir, ouvrant la voie à une escalade majeure dans le conflit en Ukraine. Il a aussi laissé entendre qu'il était prêt à user de l'arme nucléaire pour défendre la Russie face à l'Occident, qu'il accuse d'être déterminé à détruire son pays.
RFJ, les 12h28.
Sport.
L'annonce de sa retraite a fait la une des journaux du monde entier la semaine dernière. Roger Federer s'est exprimé hier soir pour la première fois devant les médias pour expliquer sa décision. Le Balois est à Londres où il s'apprête à disputer la Lever Cup à partir de vendredi. Ce sera sa toute dernière sortie comme joueur professionnel de tennis. Il a répété hier soir que son corps a dit stop et que sa décision était mûrement réfléchie.
La décision pour moi de plus jouer au tennis, elle est venue en quelques jours après quand j'étais à Wimbledon en fait. Là sur le terrain encore où je dis, voilà, j'espère de vous voir l'année prochaine. Sincèrement, je le pensais encore. Quelques jours passent, encore une semaine qui passe. Et je sens que le genou, il fait juste plus de progrès, quoi. Après, j'avais encore un scan à faire. Le scan, il était bof encore. Et là, il faut maintenant se poser la question, mais ça sert à quoi encore? Je veux dire, on savait qu'on bougeait sur la glace déjà très fine, tu sais. Et voilà. Alors pour moi, là, ce moment, il était émotionnel quand j'ai dit, écoute, c'est fini, c'est bon, j'ai bien compris. Et je sais que c'est la bonne décision et la seule bonne décision.
Roger Federer qui avoue logiquement ne pas être au top de sa forme. Il ne s'alignera donc que sur le double à la Lever Cup à Londres. Son genou ne lui permet pas d'en faire davantage.
Non, je ne vais pas pouvoir jouer le simple. Pour moi, c'était déjà assez clair de l'avance. C'est pour ça d'ailleurs que c'était pour moi plus une option depuis maintenant un bon moment aussi que je ne pouvais pas jouer balle. Pour finir avec le système de la Lever Cup, je pense que je vais jouer vendredi soir le double. J'ai demandé aussi à Bjorn Borg si c'était OK. Tu fais ce que tu veux, pas forcément. Déjà, juste revoir sur un terrain de tennis, c'est déjà un rêve pour nous tous. Alors, il faudrait demander lui. Mais en tout cas, la pression est énorme pour moi aussi parce que je veux essayer de le faire. Ça va jouer à fond, voilà. Alors, je vais essayer de pouvoir être quand même un peu compétitif, mais au moins, j'arrive à jouer un certain niveau que je trouve c'est complètement acceptable. Voilà.
Et la Lever Cup débutera donc vendredi à Londres. La Suisse a remporté l'or ce matin en relais mixte au championnat du monde de cyclisme en Australie. La formation Helvète composée de Nicole Koller, Marlène Reusser, Elise Chabet, Stéphane Bisseger, Stéphane Kung et Mauro Schmidt s'est imposée avec 3 secondes d'avance sur l'Italie et 38 sur l'Australie. C'est le premier titre de la Suisse dans ces championnats du monde. Et en panne de résultats, le FC Zurich a limogé son entraîneur Franco Foda ce matin. Le technicien allemand n'aura dirigé les champions de Suisse que durant 18 rencontres sans gagner un seul match de championnat. Son limogeage survient 3 jours après une désillusion en Coupe de Suisse à Lausanne. Et les Serres de Lémont vont défendre ce soir leur place de leader de Première Ligue de football. Les Delémontins accueillent les Ougois de Rotkreuz à 20h15 à la Blancherie. Une victoire permettrait au SRD de reprendre 4 longueurs d'avance sur le 3e du championnat. Résultat à retrouver demain dans la matinale. Le BC Boncourt ne se rendra pas à Star Wings ce soir comme initialement prévu. Ce match de préparation a été annulé d'un commun accord entre les deux clubs. Les deux équipes de Swiss Basketball League ont besoin de repos. La Red Team jouera son prochain match amical ce samedi à domicile face à Vevey Riviera. Un édifice endommagé accueillera un trophée de la Tour de Moron ordinaire. L'épreuve se tient dimanche du côté de Malraix. Elle compte pour le trophée jurassien. Au menu, le traditionnel parcours de 11,8 km pour 800 mètres de dénivelé positif. Le groupe sportif Malraix-Bévillard organise cette course à pied depuis 10 ans. Il n'a jamais pensé annuler l'épreuve ou modifier le parcours après les dégâts qui ont eu lieu il y a un peu plus de 3 mois sur son symbole. Le président du comité d'organisation, Yann Minder.
Ça n'a aucune influence. Bah, évidemment, on aura tous un petit pincement au cœur en voyant cette tour dans l'état actuel. La tour de Montrond, pour les gens de la région, c'est un monument en tant que coureur à pied ou VTTiste. Moi, j'adore monter là-haut pour regarder cette tour. Je l'ai déjà vu des centaines de fois. Puis de l'avoir cassée comme ça, ça va faire bizarre pour tout le monde, hein, pour les suiveurs, pour les coureurs, pour toute l'équipe. Ouais. Au niveau de l'organisation, non, absolument rien. Le parcours, les 11,8 km restent identiques. Il y a juste un petit souci au niveau de la logistique à l'arrivée. L'arrivée se fera exactement à la même place. On a juste déplacé la tente où on distribuait le ravitaillement d'arrivée, où on mettait les affaires des coureurs.
Est-ce qu'il y aura un impact sur aussi le nombre de participants, sur le public ?
Non, je pense pas. Je pense que sur l'ensemble des participants qui viennent courir au trophée de la Tour, je pense qu'ils viennent surtout pour le défi sportif. Bah, peut-être qu'il y aura plus de monde qui viendra pour voir la Tour cassée. C'est triste, je ne pensais pas dire ça un jour, mais... Il y a peut-être aussi une curiosité, peut-être qu'on pourrait rebaptiser la course le mémorial de la Tour de Montrond, mais non, mais c'est vraiment pour rigoler. Je ne pense pas qu'il y aura des changements.
Et des propos recueillis par Florian Wolfer et au départ de la course, le départ sera donné dimanche matin à 9h30. Tous les détails sont à retrouver en lien sur rfj.ch. Très bonne journée.